du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Aujourd'hui, les voleurs sont rentrés, ils ont pris tout, sans l'avis de l'État. Ils ont pris toute la forêt classée du Cavali. Nous, les guerriers, nous n'avons pas accès à cette forêt classée du Cavali. Si le guerrier met ses pieds là-bas, c'est un cadavre, ses parents n'ont plus le retrouver.
Quand tu viens travailler dans une forêt, normalement, tu viens sans âme, dans le but de chercher quelque chose à manger. Ça, au moins, on peut comprendre. Mais pour des gens qui viennent s'installer avec des armes, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Donc, nous ne pouvons pas accepter que les rebelles soient réfugiés dans notre forêt, dans une forêt classée. C'est pas normal. C'est pas normal.
C'est la dernière forêt primaire autour du parc national de Taï. Et vous voyez, la position de la forêt classée du Cavali, elle est stratégique. C'est en même temps une zone de ressources cinégétiques pour les populations riveraines. Mais imaginez-vous un peu qu'à cause de la cacaoculture sauvage, cette forêt disparaît. Mais ce serait la catastrophe pour toute la zone.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie. Nous sommes toujours à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de Guiglo, près de la frontière avec le Libéria. Après avoir abordé les menaces qui pèsent sur la forêt classée du Guindébé, nous voici dans une autre forêt classée de la région, celle du Cavali. Si le contexte est différent de celui de la forêt du Guindébé, le résultat est le même. Déforestation anarchique, pollution, accaparement des terres classées. Guindébé et Cavali, un cacao au goût amer. Voici la suite du reportage d'Igor Strauss.
Je suis Thierry Fidel, riverain de la forêt classée du Cavali. Il faut dire que la forêt classée du Cavali, c'est une forêt qui fait 67 000 hectares. Et la forêt était conservée, bien conservée, jusqu'à la crise post-électorale de 2011. Donc quand la crise post-électorale a éclaté, il y avait des vagues successives de Burkinabés qui rentraient, qui venaient, ils venaient dans des cars, des convois de cars. Par jour, on pouvait remarquer qu'il y avait au moins 10 cars qui traversaient nos villages. Ils allaient se retrouver en forêt classée du Cavali. Et comme à cette période, en tout cas, personne ne pouvait parler, aucun autochtone guéri ne pouvait s'élever pour parler, puisque ceux qui faisaient ces convois-là, ceux qui convoyaient ces cars-là, c'était des chefs de guerre. Ils ont combattu tous aux côtés du MPCI. Donc les gens avaient peur. À partir de 2013, quand on a senti que la situation était calme, le désarmement avait quand même débuté, et que les institutions ont commencé, les préfets, sous-préfets ont commencé à s'installer progressivement. Nous, les jeunes, on s'est organisés. Et d'abord, dans un premier temps, on est allé voir le préfet pour lui dire non, que vraiment, trop, c'est trop. Et là, nous, on n'est pas d'accord. Voilà le combat qu'on a commencé à mener. Donc, les populations ont peur que le Cavali ne subisse le même sort que la forêt classée du Guindébé, qui n'existe plus. Donc, nous, pour ne pas qu'il y ait des crises à n'en point finir, on demande à l'État, purement et simplement, de protéger ces forêts-là. C'est une protection sûre et puis de façon systématique et puis radicale. Il faut que ces forêts-là, on expulse tous ceux qui sont dans ces forêts-là.
Moi, c'est Komodé Jean-Marc et Koga de la WCF. C'est la Fondation pour les chiens pandés sauvages. Bon, au fait, nous, étant Ecogade, nous, notre rôle dans la forêt classée du Cavali, c'est de collecter les données sur les activités anthropiques et les données sur les indices de présence des animaux tels que les chimpanzés, les hippopotames pygmées et bien d'autres. Nous sommes inquiets pour la forêt du Cavali puisque d'ici 6 mois, si rien n'est fait, cette forêt, on va la perdre.
Pourquoi d'ici 6 mois? C'est très rapide, 6 mois, c'est demain.
Ah, mais c'est ça. Puisque, bon, ces défricheurs-là, vraiment, c'est des véritables machines. Ils défrichent de jour comme de nuit. Voilà. Si rien n'est fait maintenant, je vous dis que d'ici 6 mois, il ne va rien rester. Donc si on doit sauver Cavali, c'est maintenant.
Est-ce que les autorités en ont conscience, ça?
Bon, les autorités en ont conscience. Je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, puisque je ne sais pas.
Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire, alors?
Concrètement, ce qu'il faut faire, c'est en premier lieu le déguépissement total de cette forêt-là, d'abord. Il faut la déguerpir maintenant.
Quand on parle de déguerpissement, on parle de combien de personnes?
Bon, le nombre de ces gens qui ont investi la forêt, bon, le nombre est difficile à déterminer, puisque c'est des gens... Ils sont sur le qui-vive.
Mais approximativement, est-ce qu'on a une idée?
Bon, approximativement, on peut avoir 1000 âmes, hein, 1500 âmes. Mais c'est des gens qui n'ont pas de campement en tant qu'ils étaient là, dans la forêt. Ils vivent comme des clandestins. Quand ils voient l'assaut de force approcher, ils commencent à courir, quoi. Voilà. Il faut que l'État se mette au travail maintenant pour déguerpir cette forêt-là. Sinon, on ne parlera même plus du parc national des Taïs. Si cette forêt est partie, je vous dis que le parc s'est raté.
Je suis Biéou Valérie, jeune riverain du parc national de Taï et de la forêt classée du Cavali. Je suis originaire donc de Taï, plus précisément du village d'Aobli, village proche de la forêt classée du Cavali. Alors, je voudrais raconter un peu le drame que subit la forêt classée du Cavali actuellement. Il faut dire que la flore est victime, bien sûr, d'une destruction sans nom. Et ces infiltrés, donc clandestins, utilisent des méthodes qui auront à coup sûr un impact tant sur la biodiversité que sur même le sol, parce qu'ils utilisent des produits chimiques pour détruire les arbres. Ils font des entailles dans les écorces des arbres et ils y mettent ces produits chimiques qui font sécher ces arbres en moins de 3 voire 4 jours. Et ce sont des milliers d'arbres qu'ils détruisent au jour le jour, et ils le font avec ces produits chimiques pour ne pas attirer l'attention, bien sûr, des autorités à charge de la protection de cette forêt. S'ils utilisent du feu, la fumée va alerter. S'ils utilisent également des tronçonneuses, et le bruit de ces tronçonneuses va alerter, bien sûr. Donc ils utilisent ces produits chimiques qui d'abord détruisent presque tous les arbres, mais également auront à coup sûr un impact sur le sol et même sur la faune. Et le comble, c'est que ma visite dans cette forêt en 2016, bien sûr, m'a laissé un goût très amer de la situation, des animaux surtout. Parce que comme vous le voyez, si vous prenez la carte de la région du Cavali, c'était avant, il y a moins de 25 ans, un massif forestier qui s'étendait à perte de vue entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Mais malheureusement, l'agriculture est freinée, a scellé bien sûr un morcellement de cet espace jadis verdoyant. Et aujourd'hui, le Cavali, la forêt classée du Cavali, est, je peux dire, la dernière zone refuge de ces animaux, des terroirs villageois, bien sûr, qui ont été chassés, bien sûr, par l'avancée, bien sûr, des agriculteurs. Mais mon constat sur le terrain, c'est qu'il y a encore de la vie animale dans cette forêt. Il y a des hippopotames nés, des chimpanzés, des singes de toutes sortes, des buffles sauvages. Nous n'avons pas à détruire tout cet habitat, rien que pour du cacao, rien que pour du chocolat.
Plusieurs chefs de guerre opèrent dans la forêt classée du Cavali. Le plus connu d'entre eux, Tong Odo, a été arrêté par la Sceau des Forts, la Société de développement des forêts, avant d'être relâché par la justice pour manque de preuves. De nouveau en liberté, il fait régner la terreur avec l'un de ses lieutenants surnommé l'Assaut. Vente illégale de parcelles de forêt, raquette des ouvriers travaillant dans les plantations, travail forcé et vol avec violence font partie de ses faits d'armes.
Je m'appelle Ouedraogo Félix. C'est depuis l'année passée que les gens de Tong Odo sont venus nous agresser en forêt de Cavali. Ok, on est venu en forêt de Cavali en 2010, au temps de la guerre, on a profité venu. C'est au niveau de 2013 que les sceaux de force sont venus dire non, quitter dans la forêt là, parce que c'est forêt classée. Maintenant, après ça, nous aussi, bon, on a essayé de. Comme tout le monde sont dedans, on n'a pas pu sortir. Donc, mais on n'a pas pu couper encore ce qu'on avait planté. On est resté sur ça. Donc, maintenant, en 2016, on voit un groupe qui sont venus dire non, vous devez quitter dans vos plantations.
C'était qui ce groupe?
C'est le groupe de Tong Odo. C'est pas Guéré qui nous a cherché sur le champ. C'est nos frères, même Burkinabé, qui vient parler à Moré, qui quitter dans ces lieux. Et maintenant, nos plantations qui produisent aujourd'hui qu'on cueillit, on nous a cherché de notre champ. J'ai cueilli tout, ramassé mon cacao. J'ai en train de lutter pour ça. Mais l'année passée, quand je suis venu, il a envoyé ses éléments, ils sont venus m'attraper, frapper, bafouiller, prend tout ce que j'avais, moto, téléphone, l'argent, clé de ma maison, même me déshabiller, prend les bracelets, tout. Cette affaire-là, je suis parti chez le chef du village. Il dit, ah, affaire-là, où ça va là? C'est un peu compliqué. Je suis rentré à la gendarmerie à Taï. Le chef de brigade, j'ai expliqué. Il nous a donné des convocations. Que si je les connais, d'aller les remettre. Je suis parti les remettre. Ils ont refusé de prendre les convocations. Donc, je suis revenu à la maison. Plus de 2 jours, on m'a appelé dans une poste de Guidbaï. Que de venir là-bas, que la moto est là. Mes téléphones sont là. Que de venir prendre les trucs qui sont confisqués. J'ai dit, ah, mais les gars qui t'ont envoyé ma moto et mes trucs là, toi-même, tu ne peux pas les prendre. Les gens qui sont venus, les fusils, et je vous ai tout expliqué. Et ils sont capables aussi de venir remettre les trucs à un gendarme. Et puis ils sont repartis. Et puis vous m'appelez de venir chercher. Comment ça se passe?
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Quand ils sont allés porter l'affaire à la gendarmerie, 2 jours après, la gendarmerie est rentrée en négociation avec la bande armée. Donc la gendarmerie a récupéré les motos. Quand les gendarmes sont allés prendre tout ça, là, ils n'ont pas arrêté ceux qui ont commis ces exactions-là. C'est comme ça que nous, on allait rencontrer le commandant de brigade de la gendarmerie de Taï pour essayer d'en parler. Il nous a même chassé, littéralement chassé même de la brigade. On allait voir le préfet pour poser le problème au préfet. Le préfet, séance tenant devant nous, le préfet l'a appelé pour lui dire, mais reçois la plainte des ONG. Il ne faut pas donner l'impression que tout le monde est corrompu par cette bande armée-là dans la région. On est retourné, il n'a pas voulu recevoir la plainte. Donc on a décidé de faire des courriers au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Défense, pour décrier tout ce qui s'est passé. Donc Dieu merci, il y a une réaction. Les gens, en tout cas au niveau du commandement supérieur de la gendarmerie, on a été reçus, en tout cas on nous a bien reçus, et ils ont dit qu'ils allaient diligenter une enquête. Et puis l'enquête a été diligentée par le capitaine de la compagnie de Guiglo, qui est venu, qui a diligenté l'enquête dans tous les villages, là, vu des victimes, rencontré les chefs du village, rencontré les présidents des jeunes, et lui aussi qui a fait un rapport. Et le commandant de brigade de la compagnie de Taï a été effectivement mis aux arrêts pour complicité, collaboration avec une bande armée. Donc il y a un nouveau commandant de brigade qui est arrivé. Et il a dit, en tout cas, à partir de maintenant, il est venu pour travailler pour les populations. Et ce que l'autre n'a pas fait, l'autre, en 4 ans, il n'a pas pu arrêter un seul élément de la bande armée. Mais le nouveau qui est arrivé là, en 3 mois, il a arrêté 6 éléments de la bande armée qui ont été déférés et qui sont actuellement en instruction. Donc au moins, on a senti des signes. Et en tout cas, il nous a dit, il va nous aider à démanteler la bande pour que vraiment la sécurité, la tranquillité reviennent dans les départements.
C'est vrai, nous avons été menacés au départ, par les infiltrés surtout. Celui qui est beaucoup cité, à savoir ce Tongodo. Tongodo qui est d'origine burkinabé, qui a fait fortune dans la vente donc, de cette forêt. Au départ, lorsque nous avons engagé ce combat, par personne interposée, il a essayé de nous intimider, de nous menacer. Et la première action que nous avons menée aux côtés de l'assaut des forts a été d'aider l'assaut des forts à le capturer. Mais malheureusement, les décisions de justice n'ont pas été de notre goût.
Puisque
un tel bandit des grands chemins, dont les exactions sur la forêt et dans la forêt, bien sûr, sont avérées, a été relâché, bien sûr, par la justice, selon elle, bien sûr, pour insuffisance des preuves. Il a continué, il continue toujours à mener ses actions dans la forêt, mais cette fois-ci, il s'est retranché, selon les informations qui nous reviennent du côté des mains, mais il a ses lieutenants qui sont sur le terrain, qui mènent des actions dans la forêt, qui rançonnent les populations qu'ils ont eux-mêmes installées dans cette forêt, parce que selon les informations en nos possessions, ils détiendraient dans cette forêt plus de 1 km carré de cacaoyers, dans laquelle, bien sûr, tous les paysans qu'il a installés de façon illégale de la forêt classée du Cavali doivent absolument et impérativement travailler comme du servage pour lui. Et souvent, ça vire au drame. Il y a des crimes qui sont passés sous silence. Il y a des exactions qui sont passées sous silence. Et ce, bien sûr, au grand désarroi des populations riveraines.
C'est pas du vent sur RFI.
Dédicace à toutes les mamans de l'Afrique. Que l'Afrique soit un continent béni par Dieu. Que la Côte d'Ivoire soit un pays de paix. Enterrant la hache de guerre. Donnons-nous les mains pour construire l'éléphant d'Afrique de demain. Cheikh Sékou Traoré.
Moi, mon nom c'est M. Kabore Edmond, je suis Moshi, Burkinabé. Il y avait mon frère dans la forêt classée, les gars de l'asso, ils ont leur groupe dans la forêt, ils sont avec fusil. Donc ils ont attrapé mon petit frère, bon, depuis le 26, le mois passé.
Donc, et là, subitement, il a disparu.
Oui, il a disparu.
Vous n'avez aucune nouvelle?
Non, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Ils ont trouvé 4 personnes dans hangar là. Donc maintenant, ils ont commencé à les frapper. Donc les deux là, ils ont fui. Et ils sont fui. Et puis ils ont laissé le deux là. Donc c'est là, ils ont pâté avec le deux là.
Donc les deux qui ont fui, c'est votre frère et quelqu'un d'autre, c'est ça?
Oui, oui. Quelqu'un d'autre là, lui, c'est Bazongo Pierre. Voilà, donc mon frère là, c'est Kabore Julie Zambatis.
Ah, donc il y a 4 Burkinabés donc, qui ont été frappés, dont oui. Votre frère. Uh-huh. 2 ont cherché à fuir.
Oui, oui.
Et donc, depuis qu'ils ont fui, on n'a plus de nouvelles.
Oui, oui, on n'a plus de nouvelles. Donc, les deux RSC. Mais dans le classé, là, ils sont avec leur groupe. Donc, tu ne peux pas aller là où ils sont pour aller se vérifier. Donc, il faut que tu, toi aussi, tu amènes les enquêtes un peu. Et puis, on sait. Mais nous, on voulait, si on l'avait attrapé, les lasso, ah, s'il est arrivé à Gendarmerie, il va expliquer là où ça se trouve les enfants, s'ils ont tué ou pas.
Dans la région du Cavali, en majorité aujourd'hui, là, nous, c'est l'évéaculture. Le cacao, tout le cacao qu'on trouve là, la plupart du cacao qu'on trouve, à 80%, il sort des forêts classées, que ce soit Cavali, que ce soit Gouindébé. Nous, on est des petits riverains. Quand on crie, notre parole ne porte pas. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des films, des grands films de cacao, comme C'est moi, Barry Calvo, Cagil, le cacao qui paye. Il dit qu'ils sont engagés dans des projets de certification. Que le cacao qui paye là ne vient pas. Mais c'est une injure à notre endroit, nous qui sommes les riverains, nous qui vivons ce quotidien-là. C'est une injure à notre endroit. On est là et on les voit à longueur de journée, tout le cacao qui paye là, il sort de la forêt classée du Gouindébé, il sort de la forêt classée du Cavali. Quand les films là disent non, qu'on a des projets, tiennent des grands discours, hein, on a des projets de certification, on fait la certification, on a des millions de... des centaines, 600 millions qu'on a injecté à telle coopérative pour faire la certification, on a injecté 500 millions ici pour faire la certification, c'est faux, c'est du mensonge, c'est du banditisme. Nous on le dit, hein, tous ces grands films là, il n'y a pas une seule film un seul grand producteur de cacao qui ne prend pas le cacao en forêt classée du Cavali. Et ça, toutes les autorités administratives le savent, toutes nos autorités politiques le savent. J'ai une fois une rencontre, la dernière rencontre où le ministre était là, les députés, tout le monde était là. J'ai posé la question aux éléments de l'assaut des forêts et puis au capitaine des eaux et forêts qui était là. Je lui ai demandé s'il a une fois appréhendé ne serait-ce qu'un seul camion qui sortait de la forêt classée du Gouindébé pour dire, vous sortez, c'est une aire protégée, vous n'avez pas le droit d'aller prendre le cacao là-bas pour partir le vent. Est-ce qu'ils ont une fois interpellé un véhicule? Jamais. Est-ce que l'assaut des forts a une fois interpellé un véhicule sous prétexte qu'il sort des 35 tonnes qui est chargé de cacao qui sort de la forêt du Cavali? Jamais. On n'en a jamais vu dans la zone. Donc en fait, je voulais souligner ce volet-là pour que les gens sachent, pour que ces films-là, même s'ils n'ont pas les informations, ils ne savent pas la vérité, Peut-être qu'ils n'ont pas les informations juste parce que peut-être ils ne viennent pas sur le terrain. Il faut que ces grandes firmes-là sachent que le cacao, que le français, que le citoyen français consomme là, c'est du cacao issu de la déforestation. Et c'est ce chocolat-là que quand on regarde à la télé, les gens présentent comme du chocolat sain, du chocolat, c'est du chocolat de la déforestation. C'est du chocolat du sang de certains Ivoiriens.
Je suis Yaï Octave, cadre de la région du Kabali.
Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette forêt? Que faut-il faire pour enrayer la déforestation?
Il faut rapidement agir. Il faut agir, il faut que l'État...
Mais en faisant quoi?
Mais en mettant ceux qui sont actuellement là-dedans, il faut les mettre dehors rapidement.
Et puis, on parle de bande armée assez violente quand même.
Mais bande armée, c'est un État. Et c'est pas une armée en Côte d'Ivoire. Une bande armée qui peut faire quoi devant l'armée nationale? Il faut que les gens prennent des mesures. Si on a la volonté vraiment de protéger cette forêt, il faut rapidement mettre ceux qui sont là-dedans dehors.
Mais un des chefs de guerre, justement, avait été arrêté. Il a été libéré pour faute de preuves. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un chef de guerre arrêté soit relâché pour faute de preuves?
Bon, je n'ai pas d'informations par rapport à ça. Je n'ai vraiment pas d'informations, donc je ne peux pas affirmer ça.
Alors, certains me disent que, après la forêt de Kavali, ben les bandes armées, ceux qui s'infiltrent, pourraient s'attaquer aux forêts du Libéria et que ça pourrait compliquer les relations entre le Libéria et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Bon, comme une bande armée ne respecte pas de loi, donc si on occupe la forêt classée de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils sont capables aussi d'aller aussi agresser la forêt du Libéria. Donc, et c'est tout à fait normal que le Libéria réagisse. Certains auraient déjà traversé le fleuve Kavali pour aller dans la forêt du Libéria. Et les Libériens ont réagi. Les Libériens ont réagi.
Comment?
Ils ont réagi pour venir les déguerpir. Donc ils ont été déguerpis.
Est-ce qu'ils en ont voulu aux Ivoiriens de laisser ces gens venant de la Côte d'Ivoire venir au Libéria?
Mais bien sûr. Je pense que cela a été réglé. Les deux gouvernements se sont retrouvés pour que cette situation soit réglée afin que chacun respecte vraiment les frontières et tout ça. Et puis pour la sécurité de chaque État, il y a eu des rencontres ici à Diglo. Les chefs traditionnels étaient associés à ces rencontres pour prendre des mesures pour protéger chaque État, pour qu'on puisse freiner ce fléau. Donc ça a été arrêté. Vous savez, un problème de terre, ça peut générer beaucoup de choses. Ça peut provoquer beaucoup de choses. Le problème de terre est un problème très important. Mais si on y prend garde, qu'on ne cherche pas vraiment les solutions rapides, ça peut engendrer tout cela.
Nous demandons à l'État de prendre la décision de changer le statut de cette forêt pour en faire une réserve, voire un parc.
Mais l'État a déjà du mal à réserver une forêt classée. Oui. On peut imaginer que ce sera encore plus difficile de préserver un parc ou une réserve.
Parce que simplement, je vous donne l'exemple, le cas de la forêt de Taï. En son temps également, cette forêt était infiltrée par des Burkinabés, par même des Baoulés. Et il y avait des grandes plantations dans la forêt de Taï. Mais il a fallu une décision courageuse, étatique, de les déguerpir. Et c'est ce déguerpissement des années entre 85 et plus qui ont permis aujourd'hui de sauver cette forêt et qui fait la fierté du monde entier. Le problème de la déforestation, le problème du changement climatique qui suit cette déforestation est un problème mondial. Et je crois que notre nation, la Côte d'Ivoire, a été l'une des premières nations signataires, bien sûr, de la COP21 à Paris. Et ce serait un signe fort, un engagement fort pour l'État de Côte d'Ivoire de prendre la décision qui s'impose aujourd'hui, à l'heure actuelle, de changer le statut de cette dernière forêt primaire autour du parc national de Taï, l'ériger en réserve, voire en parc, pour le bien-être de l'humanité.
Dans la forêt,
Pour les autorités ivoiriennes, confrontées au ras-le-bol des populations de la région de Guiglo, il est donc temps d'agir. Mais comment ? Comment concilier sauvegarde de la forêt et développement économique avec la culture de cacao ? Lors de la COP23 en Allemagne, le ministre des Eaux et Forêts, Don Wai, a présenté les grandes lignes de la nouvelle politique de préservation et de réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire. Certaines propositions de cette nouvelle politique en cours d'élaboration ont été bien acceptées par l'ensemble des acteurs. La volonté de rétablir l'ordre dans les zones sujettes à conflit, de surclasser la forêt du Cavali en aire protégée et de rendre plus performante la SODEFOR, la Société de Développement des Forêts, sont les points positifs de ce nouveau texte de loi. D'autres points, en revanche, ne font pas l'unanimité, comme la création d'un nouveau statut d'agroforêt classée, qui est perçu par certaines ONG comme une conversion des forêts classées en plantation de cacao à grande échelle. De plus, selon les observateurs, si le secteur privé qui sera en charge de ces agroforêts classées n'a pas de mandat clair et les moyens réels de les surveiller, la déforestation pourrait reprendre de plus belle et porter un coup fatal au couvert forestier ivoirien.
Merci à Igor Strauss pour ce reportage réalisé par François Porcheron. Pour réagir, vous pouvez nous écrire à c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux hashtag c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.